Chapitre 4. Carlos Herrera, lui, tourna dans son cabanon dès qu'il y fut seul, comme l'ours blanc du jardin des plantes dans sa cage. Il vérifia minutieusement la porte et s'assura que, le Judas excepté, nul trou n'y avait été pratiqué. Il sonda tous les murs, il regarda la haute par la gueule de laquelle venait une faible lumière et il se dit « Je suis en sûreté ». Il alla s'asseoir dans un coin où l'œil de surveillant appliqué au Judas à grillage n'aurait pu le voir. Puis il ôta sa perruque et y décolla promptement un papier qui en garnissait le fond. Le côté de ce papier en communication avec la tête était si crasseux qu'il semblait être le tégument de la perruque. Si Bibi Lupin avait eu l'idée d'enlever cette perruque pour reconnaître l'identité de l'Espagnol avec Jacques Collin, il ne se serait pas défié de ce papier tant il paraissait faire partie de l'œuvre du perruquier. L'autre côté du papier était encore assez blanc et assez propre pour recevoir quelques lignes. L'opération difficile et minutieuse du décollage avait été commencée à la force, 2 heures n'auraient pas suffi, la moitié de la journée y avait été employée la veille. Le prévenu commença par rogner ce précieux papier de manière à s'en procurer une bande de 4 ou 5 lignes de largeur, il la partagea en plusieurs morceaux. Puis il remit dans ce singulier magasin sa provision de papier après en avoir humecté la couche de gomme arabique à l'aide de laquelle il pouvait rétablir l'adhérence. Il chercha dans une mèche de cheveux un de ses crayons fins comme des tiges d'épingle dont la fabrication due à Suse était récente et qui s'y trouvait fixée par de la colle. Il en prit un fragment assez long pour écrire et assez petit pour tenir dans son oreille. Ses préparatifs terminés, avec la rapidité, la sécurité d'exécution particulière aux vieux forçats qui sont adroits comme des singes, Jacques Collin s'assit sur le bord de son lit et se mit à méditer ses instructions pour Asie, avec la certitude de la trouver sur son chemin, tant il comptait sur le génie de cette femme. « Dans mon interrogatoire sommaire, se disait-il, j'ai fait l'Espagnol parlant mal le français, se réclamant de son ambassadeur, alléguant les privilèges diplomatiques et ne comprenant rien à ce qu'on lui demandait, tout cela bien scandé par des faiblesses, par des points d'orgue, des soupirs, enfin toutes les balançoires d'un mourant. Restons sur ce terrain. Mes papiers sont en règle. Asie et moi, nous mangeons bien, monsieur Camuso. Il n'est pas fort. Pensons donc à Lucien. Il s'agit de lui refaire le moral. Il faut arriver à cet enfant à tout prix, lui tracer un plan de conduite, autrement il va se livrer, me livrer et tout perdre. Avant son interrogatoire, il doit avoir été seriné. Puis il me faut des témoins qui maintiennent mon état de prêtre. » Telle était la situation morale et physique des 2 prévenus, dont le sort dépendait en ce moment de M. Camuso, juge d'instruction au tribunal de première instance de la Seine, souverain arbitre, pendant le temps que lui donnait le code criminel des plus petits détails de leur existence. Car lui seul pouvait permettre que l'aumônier, le médecin de la conciergerie ou qui que ce soit, communiquât avec eux. Aucune puissance humaine, ni le roi, ni le garde des Sceaux, ni le premier ministre, ne peuvent empiéter sur le pouvoir d'un juge d'instruction. Rien ne l'arrête, rien ne lui commande. C'est un souverain soumis uniquement à sa conscience et à la loi. En ce moment où philosophes, philanthropes et publicistes sont incessamment occupés à diminuer tous les pouvoirs sociaux, le droit conféré par nos lois aux juges d'instruction est devenu l'objet d'attaques d'autant plus terribles qu'elles sont presque justifiées par ce droit qui, disons-le, est exorbitant. Néanmoins, pour tout homme sensé, ce pouvoir doit rester sans atteinte. On peut, dans certains cas, en adoucir l'exercice par un large emploi de la caution. Mais la société, déjà bien ébranlée par l'inintelligence et par la faiblesse du jury, magistrature auguste et suprême qui ne devrait être confiée qu'à des notabilités élues, serait menacée de ruine si l'on brisait cette colonne qui soutient tout notre droit criminel. L'arrestation préventive est une de ces facultés terribles, nécessaires, dont le danger social est contrebalancé par sa grandeur même. D'ailleurs, se défier de la magistrature est un commencement de dissolution sociale. Détruisez l'institution, reconstruisez-la sur d'autres bases, demandez, comme avant la Révolution, d'immenses garanties de fortune à la magistrature, mais croyez-y, n'en faites pas l'image de la société pour y insulter. Aujourd'hui, le magistrat, payé comme un fonctionnaire, pauvre pour la plupart du temps, a troqué sa dignité d'autrefois contre une morgue qui semble intolérable à tous les égaux qu'on lui a faits. Car la morgue est une dignité qui n'a pas de point d'appui. Là gît le vice de l'institution actuelle. Si la France était divisée en 10 ressorts, on pourrait relever la magistrature en exigeant d'elle de grandes fortunes, ce qui devient impossible avec 26 ressorts. La seule amélioration réelle à réclamer dans l'exercice du pouvoir confié aux juges d'instruction, c'est la réhabilitation de la maison d'arrêt. L'état de prévention devrait n'apporter aucun changement dans les habitudes des individus. Les maisons d'arrêt devraient, à Paris, être construites, meublées et disposées de manière à modifier profondément les idées du public sur la situation des prévenus. La loi est bonne, elle est nécessaire, l'exécution en est mauvaise et les mœurs jugent les lois d'après la manière dont elles s'exécutent. L'opinion publique, en France, condamne les prévenus et réhabilite les accusés par une inexplicable contradiction. Peut-être est-ce le résultat de l'esprit essentiellement frondeur du français. Cette inconséquence du public parisien fut un des motifs qui contribuèrent à la catastrophe de ce drame. Ce fut même, comme on le verra, l'un des plus puissants. Pour être dans le secret des scènes terribles qui se jouent dans le cabinet d'un juge d'instruction, pour bien connaître la situation respective des deux parties belligérantes, les prévenus et la justice, dont la lutte a pour objet le secret gardé par ceux-ci contre la curiosité du juge, si bien nommé le curieux dans l'argot des prisons, on ne doit jamais oublier que les prévenus mis au secret ignorent tout ce que disent les 7 à 8 publics qui forment le public, tout ce que savent la police, la justice et le peu que les journaux publient des circonstances du crime. Aussi, donner à des prévenus un avis comme celui que Jacques Collin venait de recevoir par Asy sur l'arrestation de Lucien, est-ce jeter une corde à un homme qui se noie? On va voir échouer, par cette raison, une tentative qui, certes, sans cette communication, eût perdu le forçat. Ces termes, une fois bien posés, les gens les moins faciles à s'émouvoir vont être effrayés de ce que produisent ces trois causes de terreur, la séquestration, le silence et le remords. M. Camusot, gendre d'un des huissiers du cabinet du roi, trop connu déjà pour expliquer ses alliances et sa position, se trouvait en ce moment dans une perplexité presque égale à celle de Carlos Herrera relativement à l'instruction qui lui était confiée. Naguère, président d'un tribunal du ressort, il avait été tiré de cette position et appelé juge à Paris, l'une des places les plus enviées en magistrature, par la protection de la célèbre duchesse de Maufrigneuse, dont le mari, menin du dauphin et colonel d'un des régiments de cavalerie de la garde royale, était autant en faveur auprès du roi qu'elle l'était auprès de madame. Pour un très léger service rendu, mais capital pour la duchesse, lors de la plainte en faux portée contre le jeune comte d'Esgrignon par un banquier d'Alençon, de simple juge de province, il était passé président, et de président, juge d'instruction à Paris. Depuis 18 mois qu'il siégeait dans le tribunal le plus important du royaume, il avait déjà pu, sur la recommandation de la duchesse de Maufrigneuse, se prêter aux vues d'une grande dame non moins puissante, la marquise d'Espard. Mais il avait échoué. Lucien, comme on l'a dit au début de cette scène, pour se venger de madame d'Espard qui voulait faire interdire son mari, put rétablir la vérité des faits aux yeux du procureur général et du comte de Sérisy. Ces deux hautes puissances, une fois réunies aux amis du marquis d'Espard, la femme n'avait échappé que par la clémence de son mari au blâme du tribunal. La veille, en apprenant l'arrestation de Lucien, la marquise d'Espard avait envoyé son beau-frère, le chevalier d'Espard, chez madame Camusot. Madame Camusot était allée incontinent faire une visite à l'illustre marquise. Au moment du dîner, de retour chez elle, elle avait pris à part son mari dans sa chambre à coucher. « Si tu peux envoyer ce petit fat de Lucien Rubempré en cour d'assises et qu'on obtienne une condamnation contre lui, lui dit-elle à l'oreille, tu seras conseiller à la cour royale. » « Et comment ?»« Madame d'Espard voudrait voir tomber la tête de ce pauvre jeune homme. » J'ai eu froid dans le dos en écoutant parler une haine de jolie femme. « Ne te mêle pas des affaires du palais !» répondit Camusot à sa femme. « Moi, m'en mêler ? » reprit-elle. « Un tiers aurait pu nous entendre, il n'aurait pas su ce dont il s'agissait. La marquise et moi, nous avons été l'une et l'autre aussi délicieusement hypocrites que tu l'es avec moi dans ce moment. Elle voulait me remercier de tes bons offices dans son affaire, en me disant que malgré l'insuccès, elle en était reconnaissante. » Elle m'a parlé de la terrible mission que la loi vous donne. C'est affreux d'avoir à envoyer un homme à l'échafaud, mais celui-là, c'est faire justice, etc. Elle a déploré qu'un si beau jeune homme, amené par sa cousine, Madame du Châtelet, à Paris, eût si mal tourné. C'est là, disait-elle, où les mauvaises femmes, comme une Coralie, une Esther, mènent les jeunes gens assez corrompus pour partager avec elles d'ignobles profits. Enfin, de belles tirades sur la charité, sur la religion. Madame du Châtelet lui avait dit que Lucien méritait 1000 morts pour avoir failli tuer sa sœur et sa mère. Elle a parlé d'une vacance à la cour royale. Elle connaissait le garde des Sceaux. « Votre mari, madame, a une belle occasion de se distinguer, » a-t-elle dit en finissant. « Et voilà. » « Nous nous distinguons tous les jours en faisant notre devoir, » dit Camusot. « Tu iras loin si tu es magistrat partout, même avec ta femme, » s'écria Madame Camusot. « Tiens, je t'ai cru niais, aujourd'hui je t'admire. » Le magistrat eut sur les lèvres un de ces sourires qui n'appartiennent qu'à eux, comme celui des danseuses n'est qu'à elles. « Madame, puis-je entrer ?» demanda la femme de chambre. « Que me voulez-vous ? » lui dit sa maîtresse. « Madame, la première femme de Madame la Duchesse de Maufrigneuse est venue ici pendant l'absence de Madame et prie Madame, de la part de sa maîtresse, de venir à l'hôtel de Cadignan, toute affaire cessante. « Qu'on retarde le dîner, » dit la femme du juge, en pensant que le cocher du fiacre qu'il avait amené attendait son paiement. Elle remit son chapeau, remonta dans le fiacre et fut dans 20 minutes à l'hôtel de Cadignan. Madame Camusot, introduite par les petites entrées, resta pendant 10 minutes seule dans un boudoir, attenante à la chambre à coucher de la duchesse, qui se montra resplendissante, car elle partait à Saint-Cloud, où l'appelait une invitation à la cour. « Ma petite, entre nous, 2 mots suffisent. »« Oui, madame la duchesse. » « Lucien de Rubempré est arrêté, votre mari instruit l'affaire, je garantis l'innocence de ce pauvre enfant, qu'il soit libre avant 24 heures. Ce n'est pas tout, quelqu'un veut voir Lucien demain secrètement dans sa prison, votre mari pourra, s'il le veut, être présent, pourvu qu'il ne se laisse pas apercevoir. Je suis fidèle à ceux qui me servent, vous le savez. Le roi espère beaucoup du courage de ses magistrats dans les circonstances graves où il va se trouver bientôt. Je mettrai votre mari en avant, je le recommanderai comme un homme dévoué au roi, fallut-il risquer sa tête. Notre Camusot sera d'abord conseiller, puis premier président n'importe où. Adieu, je suis attendu. Vous m'excusez, n'est-ce pas? Vous n'obligez pas seulement le procureur général qui, dans cette affaire, ne peut pas se prononcer. Vous sauvez encore la vie à une femme qui se meurt, à Madame de Sérisy. Ainsi, vous ne manquerez pas d'appui. « Allons, vous voyez ma confiance, je n'ai pas besoin de vous recommander, vous savez. » Elle se mit un doigt sur les lèvres et disparut. « Et moi, qui n'ai pas pu lui dire que la marquise d'Espard veut voir Lucien sur l'échafaud ?» pensait la femme du magistrat en regagnant son fiacre. Elle arriva dans une telle anxiété qu'en la voyant, le juge lui dit « Amélie, qu'as-tu ? Nous sommes prises entre 2 feux. » Elle raconta son entrevue avec la duchesse en parlant à l'oreille de son mari, tant elle craignait que sa femme de chambre n'écoutât à la porte. « Laquelle des deux est la plus puissante ?» dit-elle en terminant. « La marquise a failli te compromettre dans la sotte affaire de la demande en interdiction de son mari, tandis que nous devons tout à la duchesse. L'une m'a fait des promesses vagues, tandis que l'autre a dit « Vous serez conseiller d'abord, premier président ensuite. » Dieu me garde de te donner un conseil, je ne me mêlerai jamais des affaires du palais. Mais je dois te rapporter fidèlement ce qui se dit à la cour et ce qu'on y prépare. Tu ne sais pas, Amélie, ce que le préfet de police m'a envoyé ce matin et par qui? par un des hommes les plus importants de la police générale du royaume, le Bibi Lupin de la politique, qui m'a dit que l'État avait des intérêts secrets dans ce procès. Dînons et allons aux variétés. Nous causerons cette nuit dans le silence du cabinet de tout ceci, car j'aurai besoin de ton intelligence. Celle du juge ne suffit peut-être pas. » Les 9/10 des magistrats nieront l'influence de la femme sur le mari en semblable occurrence. Mais si c'est là l'une des plus fortes exceptions sociales, on peut faire observer qu'elle est vraie, quoique accidentelle. Le magistrat est comme le prêtre, à Paris surtout, où se trouve l'élite de la magistrature. Il parle rarement des affaires du palais, à moins qu'elles ne soient à l'état de choses jugées. Les femmes de magistrats, non seulement affectent de ne jamais rien savoir, mais encore, elles ont toutes assez le sentiment des convenances pour deviner qu'elles nuiraient à leur mari, si, quand elles sont instruites de quelque secret, elles le laissaient voir. Néanmoins, dans les grandes occasions où il s'agit d'avancement d'après tel ou tel parti pris, beaucoup de femmes ont assisté, comme Amélie, à la délibération du magistrat. Enfin, ces exceptions, d'autant plus niables qu'elles sont toujours inconnues, dépendent entièrement de la manière dont la lutte entre deux caractères s'est accomplie au sein d'un ménage. Or, Madame Camusot dominait entièrement son mari. Quand tout dormit chez eux, le magistrat et sa femme s'assirent au bureau, sur lequel le juge avait déjà classé les pièces de l'affaire. Voici les notes que le préfet de police m'a fait remettre, sur ma demande d'ailleurs, dit Camusot.